Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioalliance.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». C'est un plaisir renouvelé de recevoir aujourd'hui le professeur Paul Loubet, infectiologue, chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Nîmes, spécialisé dans la prévention, le diagnostic et le traitement des infections respiratoires, qui va nous parler aujourd'hui de la maladie à coronavirus, dit Covid-19. Bonjour et merci d'être avec nous, professeur Paul Loubet.
Bonjour.
La maladie à coronavirus 2019, communément appelée la ou le Covid-19, qui est un acronyme de l'anglais Coronavirus Disease 2019, est une maladie infectieuse émergente majeure de type zoonose virale causée par la souche du coronavirus SARS-CoV-2. La plupart des personnes infectées par le virus présentent une maladie respiratoire d'intensité légère à modérée et se rétablissent sans avoir besoin de traitement particulier. Certains, cependant, tombent gravement malades et ont besoin de soins médicaux. Les personnes âgées et celles qui ont un problème médical sous-jacent, tel qu'une maladie cardiovasculaire, un diabète, une maladie respiratoire chronique ou un cancer, ont plus de risques de présenter une forme grave. La première question à vous poser est: qu'est-ce qu'un coronavirus?
Alors, un coronavirus, c'est un virus respiratoire qu'on appelle corona parce qu'en fait, il a une enveloppe en forme de couronne. Donc c'est comme les autres virus respiratoires, tels que le virus de la grippe ou le virus respiratoire syncytial, un virus qui se transmet par voie respiratoire, donc par la projection de gouttelettes, et puis qui entraîne des symptômes respiratoires principalement.
D'accord. Et la pandémie de Covid-19, appelons-le Covid-19 parce que c'est à la mode, c'est journalistique et c'est tout le monde sait de quoi on parle, donc apparaît le 16 novembre 1919 à Yuan, dans la province du Hubei, en Chine centrale, avant de se propager dans le monde. Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie. Que s'est-il passé?
Alors, donc pour compléter ma réponse à votre première question, oui. C'est donc quand on parle des coronavirus, il y a des coronavirus qu'on définit comme étant saisonniers. C'est des coronavirus qui circulent régulièrement en France et dans d'autres pays, qui sont classiquement responsables d'infections respiratoires assez banales, comme le rhume, par exemple.
Voilà, c'est les rhumes.
On dit qu'on a un rhume, il y a différents virus respiratoires, mais dont des coronavirus saisonniers. Et puis après, en plus de ces coronavirus saisonniers, il existe des coronavirus qu'on a appelés émergents. Ouais. Dans l'histoire de ces coronavirus, il y a eu le SARS ou le SRAS, qu'on maintenant on appelle SARS-CoV numéro 1, oui. Qui a émergé au début des années 2000, plutôt en oui. 2002, en Asie du Sud-Est, oui. Qui s'est propagé dans quelques pays, mais oui. Qui a été relativement limité. Et ce SARS-CoV numéro 1, a priori, a disparu. On ne le retrouve plus
d'accord.
actuellement.
C'est-à-dire que le virus n'existe pas.
Il n'existe plus. Il y a un deuxième coronavirus émergent qui est le MERS coronavirus pour Middle East Respiratory Syndrome.
À votre anglais est meilleur que le mien. Hein.
Qui existe dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite notamment par exemple. Et on sait qu'il y a régulièrement des cas dans ces pays-là au Moyen-Orient avec un risque potentiel que des personnes qui voyagent dans ces pays-là et notamment au moment des pèlerinages à la Mecque oui. Soient contaminées et reviennent en oui. France avec ce virus oui. qui pour le coup lui a un risque de transmission qui est important et une létalité, c'est-à-dire un risque de mortalité qui est très important.
C'est voilà. Ça m'est arrivé parce que j'ai créé une consultation dans un quartier de Nîmes à forte population musulmane, donc j'étais consulté pour le pèlerinage, j'ai déjà été, et quand il revenait, bien souvent, on avait des maladies infectieuses comme ça, type pseudo-grippale. Quoi, hein.
C'est ça, donc il faut se méfier chez les personnes qui reviennent de pèlerinage à la Mecque, notamment avec des symptômes respiratoires, que ce ne soit pas un MERS coronavirus.
Mmh. Donc, parlez-y, excusez-moi.
Oui, et donc ce troisième coronavirus émergent, c'est le SARS-CoV numéro 2, qui a émergé, comme vous l'avez dit, en 2019 en Chine. Alors, il est assez difficile de dire exactement à quel moment il a émergé, parce que c'est vrai qu'il a été détecté à ce moment-là, qu'en France, on a détecté et dit que les premiers cas étaient survenus au début de l'année 2020. mais que probablement et par en reprenant des dossiers et des échantillons de patients, le virus avait déjà commencé à en circuler dès l'année 2019. Donc c'est difficile de dire exactement quand est-ce.
Oui, quand c'est les dates officielles. Moi, j'ai pris les dates officielles.
Ça, voilà.
Alors, il y a des coronavirus en France qui circulent, c'est-à-dire qui donnent des rhumes, etc. En pratique de ville, les gens arrivent en disant docteur, j'ai pris un froid. Et donc, je disais, moi, comme thérapeutique, il faut le rendre parce que ce n'est pas très beau.
Ouais.
Donc, on n'attrape pas de froid, on attrape des virus comme ça depuis tout le temps, virus des rhumes. Et puis, il y a les rhumes allergiques aussi. Là, c'est pas dû, c'est autre chose, c'est une autre maladie. Comment le Covid-19 contamine-t-il, j'arriverai à le dire, vous en avez déjà un peu parlé, et quelle est sa physiopathologie, c'est-à-dire la manière dont il devient pathologique, c'est-à-dire mauvais, et quelle est son histoire naturelle dans une population donnée?
Alors, on se contamine, comme avec les autres virus respiratoires, par voie respiratoire. Donc, il y a, comme pour le virus de la grippe et les autres virus, une contamination par gouttelette, c'est-à-dire que si vous êtes malade et que vous toussez ou vous éternuez, vous allez projeter sur un individu qui peut être en face de vous, quelqu'un à qui vous parlez, des gouttelettes qui contiennent du virus respiratoire et qui peuvent aller contaminer directement les muqueuses par les yeux, par le nez ou par la bouche de votre interlocuteur. Vous pouvez aller, ces gouttelettes vont se déposer sur des surfaces inertes. Une personne peut passer derrière vous, toucher des clés ou une table et puis après porter ses doigts à sa bouche, à son nez ou à ses yeux et dans ce cas-là se contaminer. Et puis ce qu'on a mis en évidence, et ça c'est assez intéressant avec ce virus du SARS-CoV-2, c'est qu'il y avait aussi en fait une contamination par aérosolisation, c'est-à-dire en fait des gouttelettes qui sont beaucoup plus petites, qui sont une taille inférieure à 5 microns.
Oui.
Et ces gouttelettes en fait peuvent rester en suspension en l'air et surtout voyager.
Et pendant longtemps elles restent
Elles peuvent rester pendant plusieurs heures et surtout aller beaucoup plus loin
et migrer
et sur plusieurs mètres. En fait, chose que les gouttelettes ne peuvent pas faire. En fait, les gouttelettes, ça ne va pas aller plus loin que 1 mètre et ça ne reste pas longtemps en suspension. Ces aérosols peuvent rester un moment prolongé et faire des distances beaucoup plus importantes. C'est pour ça qu'on a montré, par exemple, dans des endroits confinés, une personne, ou si on prend l'exemple d'un bus, une personne malade à l'arrière du bus va aller contaminer les personnes, même à l'avant du bus, même si vous avez un très long bus.
Ce que vous nous dites, ce qu'on a découvert avec Covid-19, c'est qu'il y a, pour prendre un terme un peu médiéval, un peu glauque, il y a une vapeur maléfique qui peut rester, qui peut se propager, qui fait que l'infectiologie est différente de la grippe et beaucoup plus contaminante.
C'est pour ça qu'on a bien insisté sur le fait qu'il fallait absolument aérer.
C'est pour ça qu'il faut aérer, changer. Très bien. Et quelle est la symptomatologie de cette infection et ses différents degrés?
Alors, la symptomatologie, elle est très variée. Donc déjà, si on se concentre sur l'atteinte assez classique, donc il y a les formes qu'on appelle légères à modérées, il y a les formes sévères et puis il y a les formes critiques. Les formes légères à modérées, c'est comme tous les virus respiratoires, le SARS-CoV-2 peut donner un syndrome grippal, donc des signes généraux, de la fièvre, une fatigue et des douleurs musculaires, peut donner des signes respiratoires associés, une toux, une difficulté à respirer. Ça, c'est dans les formes légères à modérées. Dans les formes les plus sévères, on va avoir une atteinte respiratoire, c'est-à-dire qu'on va avoir une pneumonie, une atteinte des poumons qui est due à ce virus. Et ces formes sévères vont nécessiter en général l'hospitalisation parce que les gens ont une atteinte à ce virus et vont avoir du mal à respirer, vont avoir besoin d'avoir de l'oxygène. Donc ça, cet oxygène, on a besoin d'hospitaliser les gens pour leur donner de l'oxygène. Et la forme extrême, et heureusement la plus rare, c'est la forme critique. Là, on a une défaillance en général de la fonction respiratoire et ça, c'est des gens qui vont être admis en réanimation et pour lesquels on va devoir faire une ventilation assistée à ces patients parce qu'ils n'arrivent plus à respirer par eux-mêmes.
Donc, il y a des tableaux quand même cliniques qui sont pas communs, mais qui sont relativement rares, mais qui sont très, très importants.
Exactement.
Et qui mobilisent les ressources de soins dans les hôpitaux, dans les cliniques, d'où la préoccupation de ces épidémies qu'on ne rencontre pas trop avec la grippe. Enfin, la grippe, c'est moins violent, ça semble moins violent.
Alors, ça semble moins violent, même si on sait que chaque année, il y a plus de 10 000 personnes qui meurent de la grippe, et notamment quand elles sont fragiles. Mais c'est vrai que ce SARS-CoV-2 est arrivé dans une population qui était complètement naïve, c'est-à-dire qui n'avait jamais
naïve au niveau immunologique, au niveau pas immunologique.
Naïve, c'est ça. Tu n'avais jamais rencontré ce virus, oui. Ni par l'infection naturelle, parce qu'il n'avait jamais apparu chez l'homme, ni par la vaccination, parce qu'au moment où le virus est arrivé, les vaccins n'étaient pas encore disponibles. Donc, ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que comme pour la plupart des agents infectieux et des virus notamment, il y a des formes qui peuvent être asymptomatiques. C'est-à-dire que vous pouvez être infecté, mais ne présenter aucun symptôme.
Vous pouvez transmettre, mais vous n'êtes pas malade.
Exactement. Et ça a été montré. Et on sait qu'il y a une grande hétérogénéité. On n'est pas égaux face à la maladie. Il y a des gens qui vont présenter aucun symptôme et d'autres qui vont faire des formes graves. On sait qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu.
Je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus en 3.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioalliance.fr. Je vous propose une pause musicale en écoutant Jean-Sébastien Bach, Prélude et fugue en ut majeur BWV 846, Le clavier bien tempéré, livre 1. Nous recevons aujourd'hui le professeur Paul Loubet qui nous parle de la maladie à coronavirus 2019, dit Covid-19. Paul Loubet est infectiologue, chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Nîmes. Vous nous avez décrit la symptomatologie de la maladie à coronavirus 2019. Pour quelles raisons y a-t-il eu cet affolement général? Quels ont été les cas graves et pourquoi le système de santé français a-t-il été submergé?
Alors, il y a eu un affolement parce qu'en fait, on a été complètement dépassé, on a été en retard par rapport à l'évolution de l'épidémie. C'est-à-dire qu'au moment où on pensait qu'il y avait simplement quelques cas en France, il y en avait déjà des centaines, voire des milliers. Donc, comme on le disait tout à l'heure, dans une population naïve sur le plan immunologique, c'est un nouvel agent infectieux qui arrive et puis qui a été responsable de formes qui pouvaient être sévères. Donc, même si ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, les formes sévères représentaient simplement 10 à 15% des cas et les formes critiques 5% des cas. Il y a quand même entre 15 et 20% des gens infectés qui pouvaient développer une maladie sévère qui nécessitait une hospitalisation.
Oui, 20% sur 60, à peu près 70 millions, c'est énorme.
C'est en fait. Donc en fait, un virus qui se propage de manière respiratoire, donc c'est le type de propagation le plus à risque, parce qu'une personne infectée peut contaminer...
Oui, ça n'a rien à voir avec les maladies vénériennes.
Enfin, c'est ça, on peut contaminer beaucoup de personnes. Heureusement, certains cas sont asymptomatiques, heureusement, certains cas font des formes peu graves qui ne nécessitent pas l'hospitalisation. Mais malgré tout, on a été débordé par l'afflux de personnes qui venaient pour une même symptomatologie dans les services des urgences et qui nécessitaient une hospitalisation.
Ce qui est intéressant, mais mettons-le entre guillemets, hein, c'est cette émergence d'une nouvelle pathologie, de nouveaux virus. On connaissait, enfin, on ne le connaissait pas comme ça. On a vécu un moment historique. De voir une épidémie comme ça, au niveau du médecin, je remets entre guillemets, hein, ne croyez pas que je prends du plaisir à ça, mais c'est intéressant au niveau intellectuel, et puis ça permet de nous adapter, de voir au niveau épistémologie, je rappelle que l'épidémiologie, c'est autre chose, l'épidémiologie, c'est la science des épidémies, comment elles se propagent, comment on les gère, etc. Donc c'est quand même une période historique et intéressante pour la médecine. Hein. Alors vous en avez un peu déjà parlé, mais quelles formes ont pris les formes dites critiques, graves, c'est-à-dire que les gens qui rentraient en réanimation?
C'est ça, donc c'était principalement une défaillance respiratoire, donc des gens qui nécessitaient d'avoir une ventilation qui pouvait être invasive, non invasive. Et puis, il y avait également des défaillances cardiaques, des fois, et des atteintes du muscle cardiaque, des myocardites, et puis des atteintes qui nécessitaient des fois des circulations extracorporelles, donc des gens qui pouvaient avoir des formes extrêmement
sévères. Alors, les myocardiques, c'est-à-dire que le muscle cardiaque est un muscle à part, pour être technicien, c'est un muscle strié, mais particulier, qu'on appelle le myocarde, et qui contient un système nerveux propre qui fait qu'il bat, même si on le retire du corps. Enfin, pas longtemps, quoi. Hein. Mais tous les lycéens de mon époque ont fait l'expérience avec le cœur des malheureuses grenouilles. Et donc ce muscle était attaqué par le virus.
C'est ça, la plupart des virus respiratoires ont un tropisme cardiaque, c'est-à-dire qu'ils ont une appétence, on va dire, pour les cellules du muscle cardiaque, ils peuvent aller directement le léser, c'est-à-dire l'abîmer. Donc on
et
peut
on
avoir,
sait pourquoi
pas spécifiquement, mais voilà, c'est une atteinte qui peut être directement liée au virus. Donc ça existe aussi avec le virus de la grippe, on peut avoir des myocardites liées au virus de la grippe. Ouais. Et avec le Covid-19, ça a bien été montré aussi, ça pouvait entraîner des myocardites.
Des maladies très graves, parce que le corps est atteint comme ça, il bat anormalement, il fonctionne anormalement, donc toute la circulation. Vous avez parlé de circulation extracorporelle. Pour expliquer la circulation extracorporelle, on prend le sang de la personne, on la fait passer dans une machine, pour simplifier, pour l'oxygéner, etc. Et on la remet dans la personne. Quoi, hein. C'est cette machine équivaut aux organes cœur et poumons qui modifient et qui oxygènent le sang. Hein. Alors, quelle a été la mortalité mondiale du Covid-19 et française, pour faire la proportion, de la maladie à coronavirus-19?
Alors, dans les derniers chiffres que j'ai pu regarder, on estime qu'il y a 7 millions de personnes qui sont décédées de la Covid-19
au niveau mondial,
depuis le début, depuis 2020, globalement. Et en France, on est à peu près à 170 000 personnes. Voilà, donc depuis,
oui, presque 200 000 personnes. C'est 170 000, c'est une ville comme Nîmes qui a été rayée. Quoi.
C'est ça, non, c'est beaucoup. Alors, c'est sûr, maintenant, depuis 2020, donc ça fait bientôt 4 ans. Mais effectivement, ce sont des chiffres importants. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'au début, la létalité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui meurent suite à l'infection, était de 2 à 3%. Et que maintenant, et notamment grâce au fait que les vaccins ont été disponibles, et c'est vraiment ça qui est venu sauver de cette pandémie, on a une létalité qui est plutôt de l'ordre de 0,2-0,3%.
Donc, oui, c'est-à-dire
que ça a vraiment été diminué. Et maintenant, on a une immunité qui est collective, qui est due à la fois à la vaccination, aux infections qu'on a pu avoir, et puis au combiné vaccination-infection.
Mais donc la population française, maintenant, est beaucoup plus protégée. C'est pour ça qu'il n'y a plus de restrictions pour les voyages,
exactement,
etc. Et comment fait-on le diagnostic et quels sont les tests?
Alors, le diagnostic, il se fait... Alors, d'une part, d'abord, il y a une suspicion sur des symptômes cliniques, donc les symptômes que j'ai évoqués tout à l'heure. Et puis, si on va avoir une preuve que cette infection et que ces symptômes sont dus au virus SARS-CoV-2 et pas à d'autres virus respiratoires. On peut faire un écouvillon nasopharyngé. Je pense que la quasi-totalité des personnes en France ont eu au moins un écouvillon nasopharyngé pour rechercher le Covid-19.
Tout le monde peut témoigner que ce n'est pas agréable.
C'est ça. Et donc, on peut faire là-dessus un test antigénique ou les fameuses PCR que tout le monde connaît.
Et alors, parlons à présent du traitement de la maladie à coronavirus 19. Et que doit-on en penser?
Alors, il y a des traitements qui existent, qu'on appelle curatifs précoces, parce qu'ils doivent être administrés de manière précoce après le début des symptômes. Il y en a un particulièrement dont on a beaucoup parlé, qui est toujours largement utilisé, qui s'appelle le Paxlovid, qui est un médicament, un antiviral, qui est spécifiquement liée à une des qui vise une des protéines de ce SARS-CoV-2 et qui doit être donnée chez les personnes à risque de développer des formes graves dans les 5 jours suivant le début des symptômes.
D'accord, donc il y a un traitement qui est curatif, et comme pour la grippe.
Exactement.
Voilà. Et au niveau de la vaccination, où en est-on ?
Alors la vaccination, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui nous a permis de sortir clairement de la pandémie. C'est-à-dire qu'au début, la grande problématique, c'était que les gens n'avaient pas d'immunité contre ce SARS-CoV-2. Et donc, quand on a commencé à vacciner tout le monde, ce qui a été montré, ce qui a été même inattendu avec ces vaccins, c'était la capacité, leur efficacité. C'est-à-dire qu'on a eu des efficacités dans la prévention des formes graves qui étaient au-delà de 90%. Donc, c'est vrai, ce n'était pas quelque chose qu'on attendait.
Donc, c'est des nouveaux vaccins à ARN, là. En deux mots. Vous pouvez nous en parler ?
C'est ça, oui. Donc,
ça n'a rien à voir avec le vaccin du tétanos.
Exactement. Il y a eu les vaccins qui ont été principalement utilisés en France, c'est les vaccins à ARN messager, qui est une nouvelle technologie vaccinale. Nouvelle parce que les vaccins contre la COVID-19 sont les premiers sur le marché à utiliser cette technologie, mais pas si nouvelle que ça quand on remonte l'historique des travaux d'équipes scientifiques sur l'ARN messager qui remonte à il y a plus de 20 ans maintenant.
Donc, c'était en fait, surtout pour les cancers, en fait.
C'est des vaccins aussi qui peuvent être utilisés en thérapeutique dans certains cancers. Mais donc là, c'est vrai que on va dire que ces vaccins ne vont aller maintenant qu'en se développant. Il y a tout un tas de vaccins ARN messager qui vont être développés contre d'autres agents infectieux, notamment viraux. Il y a le vaccin ARN messager contre certains cancers qui sont en cours de développement. Donc effectivement, c'est une nouvelle technologie.
Une nouvelle ère de vaccin, parce que ce n'est pas le vaccin de la polio, du tétan, c'est une nouvelle. On dit vaccin, on aurait dû inventer quelque chose.
C'est une nouvelle technologie vaccinale.
Bon, ils sont sûrs.
Oui, ils sont très sûrs, ils sont très efficaces.
Non, on a 2 ans de recul, il n'y a pas eu un pic d'infertilité.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des vaccins qui ont... jamais un vaccin n'a été autant surveillé que le vaccin contre le COVID-19. Il y a eu des centaines de millions de doses utilisées dans le monde entier. Et il y a une surveillance par la pharmacovigilance, c'est-à-dire la science qui évalue les effets indésirables des médicaments, vaccins inclus. Et ces vaccins ont été largement surveillés, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Et il n'y a pas eu plus d'effets indésirables majeurs que ça.
Voilà, donc il n'y a aucune crainte, il n'y a eu aucun pic d'effets secondaires.
Un recul maintenant qui est largement suffisant.
Donc, il faut absolument ne pas s'inquiéter, se revacciner si besoin, et ne pas avoir peur de s'être vacciné.
C'est ça. Et puis ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il est nécessaire encore pour les personnes les plus à risque de continuer à se faire vacciner.
Des rappels. C'est combien, une fois tous les 6 mois ?
Voilà, c'est tous les 6 mois pour les personnes
à risque. Il faut continuer à se faire vacciner, il ne faut pas avoir peur des vaccins. Et de ce vaccin a sauvé des vies.
Exactement.
Et donc, il faut que l'on dise, avec... Professeur Roubaix, on est bien placé pour avoir son évaluation scientifique et performante. Alors, quelles sont à présent les perspectives en ce qui concerne cette pathologie ?
Et bien donc là, on sait, et je pense que tous les auditeurs s'en rendent compte, c'est que le virus continue à circuler. On a des vagues, je ne sais pas si on peut toujours appeler ça comme ça, mais des vagues de circulation du virus. On sait que ce virus a muté depuis le début. Il y a la souche qu'on appelle historique. Et puis après, ça aussi, tout le monde est au courant. On a eu le variant alpha, le variant delta, puis le variant omicron. Et maintenant, circule en général. Il n'y a plus vraiment de variants forcément toujours très majoritaires, mais vont co-circuler maintenant globalement des sous-variants de la famille omicron. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a eu à nouveau un pic de circulation là, au moment des fêtes de fin d'année. Donc c'est un virus qui continue à circuler, qui mute régulièrement. Et dans ces mutations, d'une part, il y a un peu plus de transmissibilité. Il n'y a pas forcément plus de gravité, c'est-à-dire que les variants qui arrivent à l'heure actuelle ne sont pas plus méchants que les précédents, se transmettent plus facilement. Et malheureusement aussi, on sait qu'ils échappent un peu à l'immunité, soit immunité post-vaccinale, soit immunité qu'on a pu acquérir quand on s'est infecté.
Oui, mais globalement, il y a plus de virus, ils ont muté, tout ça, mais la population s'est adaptée.
La population est immunisée,
donc se protège, donc on vit. Il faut bien vous dire que vous avez des bactéries sur la peau en permanence, et que si jamais vous perdez ces bactéries sur la peau, vous avez des maladies. Donc on vit en symbiose avec des bactéries. Alors par exemple, au niveau du tube digestif, c'est un sujet que j'ai bien travaillé, vous avez presque 1,5 kg de bactéries qui vivent dans votre tube digestif, c'est-à-dire que c'est lourd, 1,5 kg de bactéries, Évidemment, c'est réparti. Hein. Donc, on vit mais perpétuellement avec des bactéries. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Et là, avec le virus, on est arrivé à une stabilité, à la population de stabilité. Il peut y avoir des contraintes, mais il faut être rassuré.
C'est ça.
Hein, vous êtes d'accord avec
moi ?
C'est
ça, tout à fait. Il faut, on s'est adapté. L'espèce humaine s'est adaptée, notamment grâce à la vaccination aussi qu'on a pu avoir. Donc, maintenant, le virus continue à circuler. Il n'y a pas vraiment, pour l'instant, de circulation hivernale pure. C'est vrai qu'on a pu voir là, les précédentes années, des pics qui surviennent au printemps aussi. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Il est très possible que dans quelques années, on n'ait plus qu'une seule circulation en hiver, un peu comme le virus de la grippe. Mais voilà, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire.
Très bien. Il me reste à bien remercier Paul Loubet pour sa présence lors de cette émission et ses explications savantes sur cette pathologie qui a fait trembler le monde. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. Coronavirus, Covid-19, prévention, contrôle, prise en charge, 101 fiches pratiques pour connaître la maladie et s'en prémunir, sous la direction du professeur Bruno Posetto, MA Édition, les traitements et le Covid-19, enjeux et réalités scientifiques, Collège national des enseignants de thérapeutique, sous la direction du professeur Christian Georges Janssen et du professeur Serge Perrault, préface du professeur Arnaud Fontanet, guide pratique MedLine, Covid-19, la vengeance du pangolin, les 180 jours qui ébranlèrent la planète, Alexis Dussol, fausse édition. Et j'ai une question à vous poser. En fait, est-ce que le virus Covid-19 vient d'un réservoir animal? Parce qu'on a parlé des chauves-souris, de...
Oui, c'est très probable. Donc là aussi, l'origine certaine, elle est discutée. Après, oui, c'est très probablement un réservoir animal avec de la chauve-souris, avec un hôte intermédiaire. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du pangolin initialement. Après, il y a des travaux qui reviennent un peu dessus. Est-ce que c'est vraiment le pangolin qui a servi d'hôte intermédiaire?
Alors certainement, ce virus est passé de l'animal à l'homme.
Oui.
Le petit livre des vaccins, Jean-Nicolas Tournier, Frédéric Tanguy, collection pour les nuls, santé, bien-être, famille, en 2022, first edition. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute. Votre santé, un trésor sur Radio Lens Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.
En streaming ou en podcast, toutes nos émissions sur radioalliansplus.fr.